Je vais vous inviter à vous tourner dans l'évangile de Luc au chapitre 13. Je me souviens d'un pasteur américain dont la petite fille était une joie pour tous ceux qui la connaissaient, et vers l'âge de 7 ans, elle a développé un cancer. Et finalement, après beaucoup de prières et de traitements, cette petite fille a été emportée. Elle est maintenant avec le Seigneur. Et son papa avait trouvé la force de donner un message. Et il partageait le réconfort qu'il avait reçu du Seigneur, qui lui avait dit: la question, c'est pas pourquoi. La question, c'est vers qui? La question, c'est pas pourquoi il y a cette souffrance, pourquoi il y a cette maladie, pourquoi il y a cette mort. La vraie question, c'est vers qui tu te tournes. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut nous interpeller en nous disant: vers qui nous tournons-nous dans ces moments de tragédie? Le pourquoi, il ne nous est pas donné de le connaître tout le temps. Le comment même, on voit que c'est pas évident à déterminer pourquoi cet homme a une nouvelle maladie, la radicalisation rapide. Ça paraît bizarre quand quelques jours on devienne radical au point de causer un tel carnage. Mais notre propos n'est pas d'adresser la situation de Nice, mais de voir comment Jésus a lui-même répondu à des situations de catastrophe qui semblaient totalement insensées. Et on va lire le début du chapitre 13 de Luc. Je lis dans la version 21 de la Bible, second 21. À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit: pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Ou bien ces 84 personnes qui ont été fauchées sur la promenade des Anglais, c'est ce qu'ils nous diraient aujourd'hui. Là, il disait: ou bien ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tuées, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tout de même. Puis il dit aussi une autre parabole qui peut être une façon de renforcer ce qu'il vient de dire dans cette première question. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit: Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Intéressant de voir que Jésus avait à répondre au même genre de questions qui nous assaillent aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Pilate a pris des Galiléens, donc sans doute des Juifs qui venaient offrir un sacrifice, et qu'il a il a ajouté leur sang à leur sacrifice, c'est-à-dire qu'il les a, fait mourir par l'épée. Et donc on peut penser que là, c'est quelque chose, c'était une catastrophe, un événement tragique qui avait été causé par l'homme. Et puis il aborde le sujet de cette tour de Siloé qui est tombée, qui a tué 18 personnes. On se souvient, il n'y a pas si longtemps que ça. Ça, on peut penser que c'était peut-être suite à une catastrophe naturelle, un tremblement de terre, c'est pas certain. Mais il semble avoir à répondre au pourquoi ces catastrophes causées par les hommes, pourquoi ces catastrophes causées par la nature. Et au Népal, oui, je me souviens, il y avait cette tour qui était tombée sur... C'était un peu la tour Eiffel de Katmandou. Elle s'était effondrée et avait tué beaucoup de personnes. Et il demande cette question, pensez-vous que c'était des plus grands pécheurs que les autres? Pensez-vous qu'ils étaient plus coupables que les autres habitants de Jérusalem? Et on a déjà évoqué cette question. Lorsque de mauvaises choses nous arrivent, on a tendance à dire « Mon père faisait ça, il n'était pas vraiment croyant, pratiquant. » Il disait « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ? Pourquoi est-ce que ça m'est tombé dessus ? On a le réflexe, lorsque une catastrophe arrive, d'essayer de savoir si les hommes et femmes qu'on connaît, nos bien-aimés, ont été touchés ou pas. J'avais prévu de me coucher tôt ce 14 juillet. Finalement, je me suis couché plutôt 3 heures du matin et je me suis relevé à 6 heures du matin parce que je voulais savoir s'il y avait des victimes parmi nous. Quelques personnes s'étaient couchées tôt, d'autres n'avaient pas leur téléphone avec eux, donc ils ne répondaient pas aux SMS que j'envoyais. Mais c'est aussi un peu... Donc on est heureux de savoir que personne n'a été directement affecté. Et de la même façon, vous avez peut-être entendu des fois le gouvernement qui annonce par les chaînes de télévision qu'il y a eu un attentat à Istanbul, mais heureusement il n'y a pas de Français à compter parmi les victimes. Comme si ça faisait vraiment une différence. Et vous voyez sans doute de temps en temps ces programmes à la télévision, ces documentaires sur la nature. Et récemment je voyais un merveilleux banc de poissons qui étaient chassés par des dauphins et des requins. Et tout le monde, tous ces poissons essayent de se mettre au centre pour que ça ne leur tombe pas dessus. Mais en fin de compte, ça peut nous arriver à tous, ces catastrophes. Le gouvernement nous dit même qu'on doit s'habituer à vivre avec l'idée qu'on peut être victime un jour d'un attentat, d'un accident. Et on a tendance à dire, mais quel Premier ministre incompétent, on va changer, on va trouver un qui va nous assurer qu'on va être épargné. Alors, il y a cette fameuse phrase, le risque zéro n'existe pas. Et c'est ce que Jésus leur dit. Il y a des gens qui sont tombés. Et la question, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ? Même si on n'est pas croyant, on dit ce genre de choses, pourquoi ça m'est tombé dessus? On remercie des fois le sort ou le vent qui s'est levé, la pluie qui est tombée, qui nous a décidé de nous éloigner de la promenade des Anglais. Mais ce sentiment ça aurait pu être moi, mais on a tendance intrinsèquement à relier le péché et le jugement. Et si on s'étonne, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? C'est qu'on trouve qu'on est innocent et qu'on n'aurait pas dû souffrir ces choses qui peuvent être considérées comme des jugements. Et la question, certains ont dit, la question c'est pourquoi est-ce que de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes? La vraie question, c'est pourquoi de bonnes choses nous arrivent-elles? La Bible est claire que nous sommes tous des pécheurs, que nous avons rejeté Dieu et que pour cela, nous méritons la punition éternelle d'être séparés de Dieu pour toujours. Ça, c'est ce que nous ressentons inconsciemment, il y a une justice. Si le monde est vraiment seulement le résultat d'un chaos, si la vie c'est purement le fruit du hasard, un accident cosmique, des molécules qui sont formées par accident et on ajoute des millions et des millions et des milliards d'années pour que à travers des accidents sans cesse répétés, on arrive à être des hommes qui ont conscience, qui ont des émotions, qui sont attristés, qui ont peur, qui sont en colère. On sait que c'est pas vrai. Dieu a mis dans nos cœurs, nous dit la parole dans Ecclésiaste 3, 12, le sentiment de l'éternité. Quand on voit des personnes mortes, si vous avez eu la triste expérience de voir un être cher décédé et de voir son corps, vous voyez le corps, mais vous vous dites que la personne est partie quelque part. C'est ce que la Bible explique, oui, la mort, c'est la séparation de nos esprits d'avec nos corps, dans la lettre de Jacques. Et il y a cette mort est pour nous, et c'est ce que dit Jésus là en fait, c'est ça, les catastrophes n'arrivent pas à ceux qui sont les plus grands pécheurs ou ceux qui sont plus coupables que les autres. L'évangile de Jean nous dit que la loi est venue par Moïse, mais que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi qui nous montre que nous sommes coupables, la loi ce sont les 10 commandements qu'on connaît plus ou moins, qu'on a souvent du mal à citer. Si vous voulez un passage où vous pouvez les retrouver, c'est dans l'Exode 20. On peut les rappeler. Il y a un seul Dieu. On ne doit pas faire d'idoles, de fausses représentations. On ne doit pas utiliser le nom de Dieu en vain. Bon Dieu, pourquoi un truc m'arrive de cette nature? On doit se souvenir de prendre un jour de repos devant Dieu pour tourner nos cœurs vers lui. Et puis, il y a des commandements dans une relation verticale de chaque être humain avec Dieu. Et puis, il y a toutes les relations horizontales entre les hommes, entre les hommes, les femmes, entre tous les hommes et toutes les femmes. On est appelé à honorer ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Pas commettre de meurtre, pas commettre d'adultère, pas commettre de vol, pas commettre de faux témoignages, ne pas envier nos voisins, de convoiter ce qui leur appartient. Toutes ces choses, en fait, nous en sommes, si nous sommes sérieux, un peu authentiques, nous réalisons que nous ne les respectons pas à la lettre. Et par ce commandement, Dieu nous montre que nous ne sommes pas de bonnes personnes. Et ces 10 commandements, ils ont été annoncés à l'humanité pour nous montrer qu'on n'y arrive pas tout seul, pour nous donner soif de Dieu, d'un Messie, d'un secours. Et c'est justement là qu'intervient Jésus-Christ. Par lui est venue la grâce, l'amour non mérité que nous recevons, l'amour qu'il nous donne. Jésus a répondu à Nicodème que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous méritons tous la mort. Nous sommes tous des coupables, nous sommes tous condamnés à mort de par notre vieille nature, de par notre filiation avec Adam et Ève. Certains pensent que ça, c'est des jolis contes, des jolies légendes, des belles mythologies. Non, c'est même les scientifiques réalisent que tout le génome humain descend d'un couple initial. Ça, c'est pas le genre de choses que vous entendez sur TF1 aux heures de grande écoute, mais c'est ce que les scientifiques qui ont le courage de voir où la science les mène se disent: oui, il y a une création, il y a un créateur. Et Jésus disait à ces gens: c'est pas une question d'être coupable. Jésus, nous est-il dit dans la parole, il est pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver. Il est venu pour nous sauver, pour nous épargner la punition que nous méritons, celle d'être séparés éternellement d'avec Dieu. Et il nous dit, c'est pas qu'il y en a qui sont vraiment coupables et qui méritent d'être punis, ça c'est réservé à Dieu de façon ultime, à la fin des temps. Et il y a un jugement qui vient, et nous savons tous qu'on a soif de cette justice. C'est pour ça qu'on dit: qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Parce qu'on espère que si on fait bien, on va être récompensé, si on fait mal, on va être puni. Dieu a mis ça aussi dans nos cœurs. Mais là, Jésus-Christ nous dit: et pour replacer un peu le contexte, on va essayer de mettre ça aujourd'hui sur la prom. Il y a quelqu'un qui de BFM TV qui vous demande: à votre avis, pourquoi ces gens sont-ils morts? Et vous leur répondez: si vous ne changez pas d'attitude, si vous ne vous repentez pas, vous allez périr vous aussi. La question, c'est pas pourquoi, la question, c'est vers qui. La repentance, ou changer d'attitude mentale, on dirait aujourd'hui changer de logiciel, c'est ce qui compte. C'est pas la culpabilité qui fait que telle personne meurt aujourd'hui, c'est qu'en fait, nous sommes tous condamnés à la mort. Tôt ou tard, nous allons tous mourir. Et nul ne peut dire: je suis jeune, c'est pour dans longtemps, ou je suis prêt, je suis vieux. On ne sait pas l'heure ni l'instant. On a vu en étudiant les prophètes, est-ce que vous êtes prêt à rencontrer votre Créateur? Jésus nous dit, ce qui compte, ce n'est pas de savoir pourquoi ceci s'est passé. Nous vivons dans un monde entaché par le péché, où il y a des fausses religions qui prêchent la mort, qui prêchent la haine. Le christianisme, à certaines époques de l'histoire, a été coupable de ça. Mais ce n'est pas une représentation juste de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a pris sur lui nos péchés. Il est allé jusqu'à la croix. Il a souffert consciemment, volontairement. Il s'est offert en sacrifice parce qu'il était Dieu parfait, incarné, en la forme du Fils. Et se repentir, encore une fois, c'est changer, c'est de réaliser qu'on s'éloigne de Dieu, qu'on se moque de lui, qu'on ne veut même pas reconnaître qu'il existe, et se tourner vers lui et lui demander pardon et de lui demander l'aide pour le suivre tout le restant de nos jours. Tous autant que nous sommes, on pourrait prendre une photo maintenant. Alors on ne sait pas si les supports électroniques dureront très longtemps. Il y a des questions, on cherche à savoir trouver des... On sait que c'est merveilleux, les manuscrits de la Mer Morte, ils sont encore visibles. Ils remontent à 200 ans avant ou après Christ. Ces manuscrits, on les a toujours. On n'est pas sûr que les disques durs vont tenir le coup très longtemps. Tout ça pour dire que on ne sait pas, mais cette photo, si on la garde 200 ans, nos petits-enfants, Daphné sera une arrière-grand-mère à l'époque, et on sortira la photo et on dira « Ah oui, c'était une réunion à Calvary-Chapelle à Nice en 2016. »« Oh ben ça fait longtemps, ils sont tous morts, grand-mère ?» Oui, oui, ils sont tous morts. Il y avait une photo comme ça dans un Nice Étoile qui m'a toujours fasciné, dans un café au deuxième étage, un grand poster qui montre l'avenue Jean Médecin. Avant, ça s'appelait l'avenue de la Victoire ou d'autres noms. Et on voyait tous ces gens qui étaient... Il y avait un vieux tramway à l'époque. Et on voyait tous ces gens qui marchaient, qui allaient faire des courses, qui s'arrêtaient dans des cafés. Et ça m'avait frappé d'un seul coup. J'ai dit, c'est drôle, on dirait la foule qui est dans la rue. Et pourtant, tous ces gens sont morts et tous nous allons mourir aussi. Alors, désolé de ne pas être plus gai ce matin. Mais Jésus nous dit, ce qui compte, c'est pas que des gens semblent avoir été punis. Moi, je suis venu pour les sauver. Et la façon d'être sauvé, c'est de changer de direction, changer d'attitude mentale. Parce que vous allez tous périr, que vous ayez commis des grands crimes, que vous n'en ayez pas commis, que vous ayez été entre guillemets une bonne personne, mais quand on y réfléchit bien, même toutes nos émotions, nos jalousies, nos envies, tout ce qui viole les 10 commandements, même si ce n'est pas flagrant, même si ce n'est pas de la même nature terrible qu'une personne qui va prendre la vie d'une centaine de personnes et faire des centaines de blessés, au bout du compte, la vraie question, c'est pas pourquoi ça s'est passé, mais c'est vers qui vous tournez, vers qui vous allez. Est-ce que vous allez vers Christ, vers le salut en Jésus-Christ, ou est-ce que vous continuez à le tenir à distance? La repentance. Changer de direction. J'aime bien expliquer, si vous êtes sur l'autoroute, que vous voulez aller à Cagnes-sur-Mer et que vous venez de dépasser Nice et que vous voyez le signe vous dit que Menton est à 18 km, vous avez raté le tournant. Vous pouvez continuer dans la mauvaise voie, Menton c'est pas mal, mais si vous voulez vraiment aller à Cagnes, il faut sortir à la prochaine route et revenir dans la bonne direction. Et c'est ce à quoi Jésus-Christ veut nous inviter aujourd'hui, de changer de direction. On n'a pas les explications toutes faites à la souffrance humaine. C'est une question que seul l'homme se pose, les animaux ne se la posent pas. Il y a même ce qu'on appelle, vous avez peut-être entendu ce mot, vous allez apprendre un nouveau nom peut-être, ce qu'on appelle la théodicée. Théodicée, ça vient de théos et dikaia, la justice de Dieu. Et l'idée c'est, pourquoi Dieu permet-il la souffrance s'il est un Dieu d'amour et qu'il est tout puissant? La Bible nous explique que c'est un Dieu d'amour qui veut qu'on l'aime en retour. Et on ne peut pas l'aimer en retour si ça ne vient pas de notre cœur, de nous-mêmes. Si je vous mets un pistolet derrière le dos en disant « Dis-moi que tu m'aimes » et que vous dites « Oui, je t'aime », ça ne va pas me remplir de joie et d'un sentiment d'un amour partagé. De la même façon, Dieu nous laisse le libre arbitre. Si vous êtes là, c'est qu'il veut que vous sachiez qu'il vous aime et qu'il veut que vous répondiez à son amour. Mais il ne va pas vous forcer, il ne va pas me forcer. Et le monde tel qu'il est, ce n'est pas le monde tel que Dieu l'a créé, c'est le monde tel que cette liberté de l'homme qu'il a prise et qu'il a utilisée dans le mauvais sens, pour son orgueil, on a dit qu'en fait l'orgueil c'était le péché de tous les péchés, se croire supérieur aux autres, vouloir imposer, vouloir ce que les autres ont, tout ça c'est le péché et Dieu ne peut pas tolérer ce péché. Je vais vous faire réagir. Et moi-même, ça m'est difficile de prendre cette illustration. Le problème ne se pose pas puisque cet homme a été déjà abattu par la police pour arrêter son véhicule et son carnage. Mais imaginez qu'il ait été jugé, qu'on ait rétabli la peine de mort pour cette situation terrible, et que le juge lui dise « on a tout étudié, et maintenant la punition c'est la mort ». On peut espérer qu'à ce moment-là, cet homme serait inquiet, serait effondré, serait peut-être pas, on ne sait pas. Mais imaginez qu'à ce moment-là, le juge lui dise « ne vous en faites pas, mon fils qui est ici présent, va aller mourir pour vos péchés. Et vous, si vous le souhaitez, vous pouvez venir à la maison pour l'éternité. Pardonnez-moi, je crois que je vous demande un effort trop difficile pour moi-même, c'est difficile de prononcer ces paroles, mais c'est l'amour de Dieu. Jésus est mort pour tous les péchés de l'humanité, y compris ceux des islamistes radicaux fous. Mais si vous ne vous tournez pas vers lui, vous allez périr de façon éternelle, être séparé de Dieu pour l'éternité. J'allais dire que cette décision de vous tourner vers lui, ce n'est pas à retarder. Et en même temps, Dieu, dans sa grâce, nous a donné la deuxième parabole, ou nous a donné cette parabole du figuier, figuier qui représentait la vigne et le figuier qui représentait Israël, qui s'était aussi détourné de Dieu, qui l'avait rejeté, et qui ne portait pas de fruits. Dieu s'attend à ce qu'une fois que nous sommes sauvés, que nous avons changé notre logiciel, que nous allons vers lui, nous portions du fruit. Du fruit, ça peut être déjà des qualités naturelles, des qualités que nous démontrons, de l'amour, de la compassion, toutes ces fruits de l'esprit On n'a pas le temps de rentrer dans tout ça, mais c'est du fruit. Du fruit, c'est aussi des personnes qui sont touchées, qui vont vers Dieu grâce à ce que vous avez pu partager. Dieu s'attend à ce qu'on porte du fruit. Et en même temps, il est patient. Ça faisait 3 ans que ce vigneron qui représente Dieu venait chercher du fruit et il était prêt à le couper. Et plutôt le maître venait chercher et le vigneron lui dit donne-moi encore un peu de temps. Donc Dieu s'attend à ce que nous nous tournions vers lui le plus rapidement possible et à ce que nous portions du fruit. Le problème, ce n'est pas pourquoi, le problème, c'est vers qui nous nous tournons. Alors je sais que ça, c'est frustrant parce qu'on aimerait toujours comprendre Dieu, parce qu'on pense quelque part qu'on ferait mieux les choses que lui. Là, c'est un péché d'orgueil, bien sûr, parce que Dieu sait mieux que quiconque les tenants et les aboutissants de toute situation. Comme on le répète souvent, on met tous nos efforts dans cette vie présente, mais il y a une éternité qui nous attend. Et l'éternité, comme disait Woody Allen, c'est très long, surtout vers la fin. On a une chance de nous tourner vers Christ et de ne pas périr. Et de porter du fruit. Porter du fruit, c'est aussi partager cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Il y a une semaine, j'ai une amie de longue date qui a vécu des choses difficiles dans sa vie, qui s'est mariée, qui a vécu un divorce, qui a été plus ou moins rejetée par sa famille chrétienne. Mais elle a une amie urgentiste, une jeune femme docteur, qui se sait condamnée par la médecine. Et cette amie lui a parlé de Dieu déjà et elle lui avait proposé que je vienne parler avec elle. Et donc cette jeune femme, qui semble encore en parfaite santé, qui était à la fan zone pendant l'Euro, en train de soigner des gens, qui a été très impliquée après l'attentat. Elle ne comprend pas, elle non plus, pourquoi. Parce qu'elle pense, et à juste titre, qu'elle fait beaucoup de bien autour d'elle, et elle se trouve condamnée avec cette maladie. Et donc elle explore un peu ce que disent les différentes religions sur l'après, après cette vie, qu'est-ce qui se passe. Et elle a une éducation catholique, mais jamais approfondie la Bible. Et j'ai pu lui partager. Donc elle nous a invités à un très bon repas. Et on avait prié pour qu'on puisse vraiment parler des choses sérieuses. Et si elle m'écoute, peut-être sur la cassette, je veux qu'elle sache qu'on prie pour elle, que Dieu peut faire un miracle, mais ce qui compte, c'est qu'elle se tourne vers lui. Et j'ai pu partager ça avec elle. Et il y a des gens qui ont soif de bonnes nouvelles autour de vous. C'est pour ça que je vous encourage à venir faire cette formation. Des fois, on est intimidé, on ne sait pas comment parler aux gens. Mais ça peut commencer simplement en disant comment ça va, qu'est-ce que vous ressentez, est-ce que vous avez été touché, est-ce que vous l'avez compris pour vous. Et l'équipe qui va être là nous disait qu'à Paris, ils ont parlé à près de, je vais peut-être dire une erreur, mais c'est 2000 ou 3000 personnes, et pas une seule personne n'a refusé qu'on prie pour elle. Les gens réalisent qu'ils ont besoin de l'aide de Dieu. Même si c'est pas culturellement, c'est pas acceptable aujourd'hui, sachez que vous avez un message d'espoir et d'amour dont les gens ont la plus grande soif. Amen. Prions. Seigneur, merci parce que tu ne veux pas que nous vivions dans la peur, Seigneur. C'est l'ennemi Satan qui veut que nous vivions dans la, dans la maison de la peur. Toi, tu veux que nous vivions dans ta maison, la maison de l'amour, Seigneur. Tu veux que nous te fassions confiance, que nous te confions nos vies, les accidents qui peuvent se passer, les tragédies qui peuvent nous arriver. Seigneur, nous te remettons tout ça. Ce qui compte, Seigneur, c'est que nous nous tournions vers toi. Et si parmi nous, il y en a qui veulent se tourner vers Christ, ils peuvent le faire en priant silencieusement cette parole, cette prière. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, que je t'ai tenu à l'écart de ma vie. Mais Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je veux changer de voie, je veux faire un demi-tour. Je veux venir à toi et te suivre pour le restant de mes jours. Seigneur, je te remercie pour l'offre de salut en Jésus-Christ. Merci Seigneur que tu me la présentes avec ce message aujourd'hui. Je l'ai peut-être déjà entendu. Seigneur, si tu es vrai, parle à mon cœur, Seigneur, que je puisse vraiment me tourner vers toi et porter du fruit. Merci Seigneur pour le salut que tu m'offres en Jésus-Christ et pour la vie éternelle que tu m'offres en lui. Sachez que le Seigneur vous donne du temps, mais comme on l'a rappelé, le jour du salut, c'est aujourd'hui. Ne remettez pas à demain ce qui n'est pas garanti. Demain n'est pas garanti, mais tournez-vous vers lui dès maintenant. Seigneur, on te demande de réconforter encore une fois tous les gens qui sont dans le deuil, dans la douleur la plus intense, le chagrin le plus terrible, Seigneur. Aide-nous à être des instruments de réconfort, des instruments de paix, des instruments d'amour. Nous prions ces choses par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.